Bonjour à toutes et tous, vous écoutez ICS, Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens, elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu spéciale. En effet, dans le cadre des 15 ans de notre radio, nous souhaitons renouveler notre logo ainsi que l'ensemble de notre charte graphique. Pour cela, 5 artistes, 5 graphistes nous ont fait des propositions de visuels que nous soumettons actuellement au vote de nos auditeurs et de nos auditrices. Durant la période de vote, ouverte jusqu'au 16 février sur notre site, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, nous vous proposons de découvrir ces 5 artistes et professionnels. J'ai donc pour ce nouvel épisode d'Info Club Sandwich la chance de recevoir Manon Knasko, alias Luperca, qui nous a fait une belle proposition de logo. Manon, bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très bien et toi ?
Ça va au top, je suis très content de te recevoir. Tu es la première des 5 personnes qui ont participé, qui nous ont fait une proposition de logo. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à nos auditeurs et à nos auditrices ?
Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Manon Knasko. Mon nom d'artiste, c'est Luperca. Je suis graphiste et photographe. Je me suis lancée il y a environ un an et demi, après donc des études dans le milieu. Voilà, donc je tourne autour de beaucoup de domaines en fonction de la photo, du graphisme, mais je m'intéresse beaucoup aux animaux, beaucoup au milieu de la musique aussi. Enfin voilà, donc j'essaie de pas mal travailler dans ces milieux-là. Et puis bah voilà, donc.
Justement, on peut commencer par le commencement. C'est quoi ton rapport aux arts visuels et puis aussi ton parcours ? C'est quoi les études qu'il faut faire pour devenir graphiste concrètement ?
Alors, j'espère que ça va pas être barbant, mais moi de base j'ai toujours été dans le dessin depuis que je suis toute petite, ça a toujours été mon loisir, au risque de passer pour, j'ai que 26 ans, mais au risque de passer pour une de l'ancienne école, en fait j'ai pas du tout grandi avec la télé et tout ça, enfin c'est arrivé assez tard, mais par contre je dessinais énormément, et vu que j'ai toujours eu un crayon dans les mains avant quoi que ce soit d'autre, bah, j'ai très vite voulu aller dans des études artistiques, j'ai quand même fait un bac général où j'ai fait une spé art plastique, la base du début quoi, et puis bah, une fois que j'ai eu passé ce bac, j'ai fait une prépa, une mana à l'époque, c'était la mise à niveau en art appliqué. Je savais pas encore ce que je voulais faire à l'époque, j'ai pensé au montage vidéo, aux effets spéciaux, j'étais pas encore trop sûre de ce que je voulais faire. J'ai découvert le graphisme pendant la mana, j'ai adoré, je faisais la photo à côté en tant que loisir, et puis bah, du coup je suis partie sur l'ESAD, l'école donc, qui est sur Amiens, où j'ai fait un cursus de 5 ans et où j'ai eu mon DNSEP du coup il y a 2 ans.
Comment tu décrirais ton univers ?
Alors, je suis... En photographie, je suis plus, comme je le disais, autour des animaux, beaucoup. J'aime beaucoup faire des photos d'animaux. Après, j'ai fait beaucoup de photos plus... Alors, le mot ne veut rien dire, mais artistique, dans le sens où j'ai créé des costumes, j'ai créé des mises en scène sur la mythologie, notamment, parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, je continue de faire ça pour le loisir. Mon projet de diplôme tournait autour de ça aussi, la réinterprétation de la mythologie. Et j'ai créé, beaucoup de photos donc, par rapport à ça, où j'adore en fait faire de la mise en scène photographique avec des décors, des scènes, où je recrée les Valkyrie par exemple, Méduse, où j'ai fait des photos au musée de Picardie par exemple, enfin bref voilà des choses comme ça. Et aujourd'hui dans mon travail, c'est ça, ça va beaucoup tourner autour peut-être du fantastique, de l'illustration dans la partie graphisme on va dire, et dans la partie photographie, beaucoup les animaux,
la nature,
c'est ce qui me plaît le plus, après je fais pas que ça mais...
C'est quoi les différentes techniques que tu travailles le plus ? Parce que c'est vrai que les aides en plus c'est assez technique, assez théorique, toi c'est quoi qui te parle, c'est quoi que tu vas travailler ?
Alors, les médiums un petit peu que je vais préférer,
ouais, c'est ça exactement. Ouais.
En illustration, je suis une très grosse fan de l'encre de Chine. Je fais beaucoup d'illustrations à l'encre de Chine. Tout ce qui va être dessin hyper détaillé, moi j'adore. Enfin, quand je vais dans un musée, j'adore voir des peintures où c'est du détail. Je suis moins fan de tout ce qui est art abstrait, etc. Même si bon, les goûts, les couleurs, c'est très subjectif. Mais c'est vrai que moi de mon côté, j'aime beaucoup le détail en fait. Donc c'est vraiment, je vais beaucoup bosser sur des techniques dans le détail. J'aime beaucoup l'aquarelle aussi, en vrai. Mélanger l'encre de Chine et l'aquarelle, c'est vachement chouette aussi. C'est assez cool. Et puis, pareil, tout ce qui va être photo, en photo, j'aime bien aussi essayer d'apporter un peu de matière. Quand je crée mes accessoires, en fait, j'essaie souvent de faire des trucs très bricolés, mais qui rentrent bien quand même. Je sais pas si c'est.
Moi, je vois ce que tu veux dire.
Voilà,
je peux aller un petit peu te stalker sur Instagram et c'est vrai que ça me parle.
Voilà, c'est.
Aujourd'hui, tu es graphiste professionnel, c'est ton métier.
Oui.
C'est quoi le modèle économique qui est proposé aux jeunes artistes et professionnels comme toi ?
Modèle économique, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, c'est quoi ton statut légal ? Comment tu fais pour faire rentrer de l'argent et puis, Et puis ne plus mettre des croutons dans la soupe, manger autre chose.
Alors il y a souvent beaucoup de croutons dans la soupe encore. Malheureusement, les métiers artistiques sont des métiers qui sont quand même assez précaires en début d'activité. Il faut être transparent là-dessus.
C'est pour ça que je pose la question, voilà. C'est important de le dire.
Bon, de mon côté, j'ai la chance que ça commence à fonctionner parce que j'ai aussi la chance de ne pas être uniquement dans un milieu. Je suis donc dans le graphisme et la photo, donc ça me permet de faire les deux activités, donc d'avoir potentiellement deux fois plus de clientèle. J'ai le statut donc de micro-entrepreneur pour l'instant. Je pense pas que ça va changer parce que c'est le plus avantageux dans ma situation. Et voilà, c'est en fait le fait de mixer des activités de graphisme et d'illustration et des activités de photo fait que s'il y a un mois où par exemple en ce moment on est en hiver, il y a beaucoup moins de photographie parce qu'évidemment il fait froid, c'est pas très joli, etc. Je vais être beaucoup plus sur des projets de design graphique dans la période hivernale. Et par contre l'été, je vais faire beaucoup de photos de mariage par exemple. Et donc je peux pas faire les deux en même temps, mais j'équilibre sur l'année et ça me permet de m'en sortir à peu près. Mais ça reste très difficile évidemment au début.
Professionnellement parlant, c'est quoi les perspectives qui s'offrent à des jeunes artistes comme toi et comme celles et ceux qui participent aussi au concours? Vers quoi tu pourrais évoluer en termes de statut légal, de modèle économique?
Eh bien, en fait, ça va être assez subjectif aussi. Moi, je sais que je suis partie dans la catégorie des indépendants parce que je ne me vois pas travailler autrement. Après, la vie a fait que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai pu me le permettre. Je sais que tout le monde ne peut pas parce que c'est quand même prendre énormément de risques. J'ai aussi eu la chance d'avoir mes parents pour mes études, donc voilà, même si j'ai travaillé aussi, j'ai quand même eu cette chance là et j'en serais sûrement pas là où j'en suis aujourd'hui sans ça. Mais en tant que jeune artiste, je pense que partir en indépendance, c'est un bon choix si on préfère effectivement avoir cette liberté, mais il faut avoir une assurance à côté d'un autre job au début. Faire que indépendant au début, c'est compliqué. Moi, je l'ai fait et franchement, c'était vraiment chaud. Donc, j'ai dû faire des missions d'intérim un petit peu à droite, à gauche, pour se payer le matériel aussi, parce que mine de rien, le matériel photo, ça coûte super cher. Donc, le conseil le plus absolu que je puisse donner, c'est si jamais vous voulez vous lancer en indépendant, prenez une autre activité à côté au début, même si c'est pénible et que ça vous fait pas plaisir. Vous serez vraiment ravis après d'avoir pu grimper un petit peu et d'avoir pu avoir votre parcours comme vous le désiriez. Et moi actuellement j'ai pas d'évolution professionnelle spécifique que je désirerais, mis à part de bien fonctionner dans ma boîte en fait.
Continuer
tout simplement
à faire ce qui te plaît quoi.
Voilà, c'est ça, parce que je me verrais pas bosser en tant que salarié donc.
On va arriver à la deuxième partie de cette interview, le concours de Radio Campus Amiens. Déjà dans un premier temps, est-ce que tu connaissais la radio avant de participer?
Alors j'en avais déjà entendu parler du coup par le biais de mon ami qui participe aussi au concours et qui s'intéresse beaucoup au milieu de la radio. Moi j'avoue que je suis tout à fait transparente là-dessus, je suis pas quelqu'un qui connaissait très bien le milieu de la radio avant d'être amie avec du coup Maëlle, qui connaît très très bien ce milieu-là depuis qu'elle est ado. Et moi, c'est vrai que j'y étais pas plus sensibilisée que ça. Et puis en fait, quand j'ai entendu parler du projet, je me suis renseignée, j'ai écouté, j'ai découvert ce que vous faisiez. Je connaissais pas avant, mais au moins ça m'a permis de découvrir, d'aller voir sur votre site, de réécouter des émissions, tout ça quoi.
Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je connais pas la radio, mais j'en entends parler via le bouche à l'oreille, il y a un concours, j'y participe?
Eh bien, en fait, j'ai trouvé vraiment chouette que le projet soit, c'est les 15 ans, on a envie de refaire un renouvellement, renouveler notre image, renouveler notre charte. Moi, il faut savoir qu'en graphisme, j'adore faire du logo et j'adore faire de la charte graphique parce que je trouve qu'une identité, que ce soit d'une entreprise, d'une asso ou autre, c'est hyper important. C'est la première image qu'on renvoie. Après, je t'ai convaincue pour les gens du milieu. C'est vrai que c'est peut-être pas évident quand on fait pas partie de ce milieu-là. Mais je sais qu'en tant que graphiste, on se rend vraiment compte par le biais de nos études que c'est hyper important. Et tout simplement, le fait d'avoir l'occasion de donner une nouvelle image à la radio, je trouvais ça super chouette et j'avais vraiment envie d'essayer.
Chouette. Alors, sur les différents éléments de com qu'on a mis en ligne, ton logo, j'ai eu le droit, Emmanuel, le directeur de Radio Campus Amiens, m'a autorisé à dévoiler le numéro de ton logo. Donc toi, c'est le numéro 4, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu et puis nous expliquer en fait ce que ça veut dire, ce que ça signifie? Parce que souvent, derrière un logo, on a aussi des messages en fait, qui sont véhiculés.
C'est ça. En fait, si je peux dire ça comme ça, en tant que graphiste, on apprend un petit peu à être des sortes de magiciens. Dans le sens où on va créer une image et que derrière cette image, on veut donner du sens, mais il ne faut pas que ça soit du premier degré. C'est-à-dire que pour faire une radio, je me suis dit, je ne vais pas tout de suite faire nécessairement un casque, un micro, même si ça peut être très bien, mais je veux être plus subtil que ça. En tout cas, c'est ce que j'ai appris dans le cadre de mes études. Et du coup, je trouvais important de donner un message un petit peu plus subtil, entre guillemets, sur le logo. Et encore une fois, c'est uniquement ma DA à moi, je dis pas qu'il faut faire comme ça. J'ai pensé aux ondes, évidemment, de la radio, c'est assez évident comme ça, mais j'ai voulu qu'il forme en fait la ville d'Amiens. Pour une bonne raison, vous êtes une radio locale qui met en avant justement des personnes, des artistes des alentours, des assos des alentours, etc. Donc je trouvais que c'était un axe qui était vraiment très important et qu'il fallait retrouver dans le logo. Donc en fait, j'ai dessiné ces ondes en prenant la forme de la ville d'Amiens. Ouais, c'est un peu le secret derrière le logo. C'est vraiment, je trouvais que c'était assez important. Et au-delà de ça, les ondes, ça présente un certain dynamisme aussi. C'est une forme qu'on utilise beaucoup dans l'art en général pour représenter le mouvement. Ça semble évident, mais c'est vrai. Et je trouvais que ça allait assez bien justement avec le côté dynamique de la radio, qui fait voilà, bouger la vie jeune, qui parle des événements. Quand je m'étais renseignée, enfin voilà, que je vous avais eu au téléphone pour un petit peu savoir comment ça se passait, quelles étaient vos valeurs, c'est quelque chose qui était beaucoup revenu. Et du coup, j'avais vraiment envie de le représenter dans le logo aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le travail qu'il y a derrière au niveau de la préparation ?
Ouais, donc en fait, tout simplement, au début, j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait ce qu'on appelle un brainstorming. Donc, j'ai noté plusieurs idées dans un carnet, je me suis creusé bien la tête, comme à chaque fois qu'on fait un logo, c'est normal. Et puis, j'ai écarté les pistes qui me semblaient pas pertinentes. Alors, justement, typiquement, le truc du micro, j'avais quand même voulu l'essayer, mais en jouant avec la typographie, ça marchait pas trop, donc j'ai laissé tomber la piste. Et puis, en fait, assez vite, j'ai eu cette idée d'onde et je me suis dit, mais les ondes, en fait, c'est hyper malléable, on peut en faire quelque chose, ça pourrait être super chouette. Et en fait, en discutant avec des proches, l'idée est venue de se dire, mais pourquoi pas faire la ville d'Amiens, en fait, ça serait super chouette. Et du coup, quand j'ai eu cette idée, j'ai commencé à faire des croquis en prenant des plans de la ville d'Amiens. Alors, évidemment, c'est synthétisé, c'est abstrait, entre guillemets, parce que prendre la forme exacte de la ville n'aurait pas eu de sens. Mais j'ai à peu près suivi les courbes, entre guillemets, de la ville selon un plan, en fait. Et à force de faire pas mal de croquis, je suis assez vite tombée sur cette idée-là, que j'ai repassée au propre. J'ai fait pas mal de choix de typographie. J'ai essayé au moins 15 typographies différentes, je pense. Et j'ai fini par aller sur celle-ci, qui est assez sobre, mais qui en même temps a un côté un petit peu technologique, moderne, que je trouvais assez sympa et qui matchait assez bien, justement, avec Londres.
Le précise aussi que là, nous, on a mis à disposition de nos auditeurs, de nos auditrices et de toutes les personnes en général qui nous suivent, uniquement le logo, mais tu as fait d'autres propositions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as proposé
dans le PDF notamment, c'est ça. J'ai associé donc un petit PDF de présentation lorsque j'ai fait ma proposition. Et en fait, dedans, j'ai mis l'explication du logo, des déclinaisons. Parce qu'en fait, quand vous faites un logo, vous proposez aussi des déclinaisons de ce logo. Parce qu'en fait, un logo, il faut qu'il soit utilisé sur plein de supports différents. Donc ça va être de la carte de visite, ça va être du site web, ça va être du pins. Enfin, c'est voilà, pas mal de déclinaisons différentes. Et le logo, du coup, peut avoir en fait des déclinaisons. Donc là, sur le post, sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est une version du logo où le texte est par-dessus l'onde. Mais sinon, il y a une autre version du logo qui est le logotype, où en fait, vous avez l'onde à gauche et la typographie à droite. Et donc là, ça va être plus pour des utilisations type carte de visite, parce que c'est un format, vous savez, paysage, quoi. Et voilà, donc les déclinaisons servent en fait à ça. Et pareil, pour du t-shirt, j'étais plus partie sur l'onde vraiment en grand, avec la typo en grand qui était par-dessus. Donc l'idée, c'était vraiment voilà, d'avoir des formats différents en fait, du logo pour qu'il puisse servir sur tous les supports de façon lisible et efficace.
Voilà, ça, je pense que c'est important de le préciser aussi. Ton logo, il servira pas que à apparaître sur le site ou sur les réseaux sociaux. Il servira aussi à faire des déclinaisons, notamment sur des t-shirts, des casquettes, sur plein d'objets en tout genre, comme on peut le voir actuellement à Radio Campus Amiens avec l'ancien logo. Ça a occupé un petit peu de ton temps fin décembre, début janvier. Est-ce que tu as d'autres actualités à nous partager au-delà de ce concours ?
Alors, au niveau des projets que je fais en ce moment, c'est
ouais,
ça
exactement,
hein
ouais.
Alors, je suis sur pas mal de choses. Bizarrement, je vous disais tout à l'heure qu'en hiver, on n'a pas beaucoup de shooting photo. En fait, il s'avère qu'en ce moment, j'ai pas mal de demandes. Il y a des personnes qui ont offert des cartes cadeaux photo aux périodes de Noël. Et du coup, donc, j'effectue ces shootings-là aujourd'hui. J'ai fait pas mal de shooting de chiens, notamment, ces derniers temps. Moi, j'adore ça.
Des très beaux épagnols bretons.
Oui, voilà. Notamment.
J'ai moi-même un épagnol breton. Je fais un bisou à mon solito.
Ah, voilà. Super. C'est un chien que j'adore et franchement, les photos étaient super chouettes à faire.
C'est quoi son petit nom à ce chien ?
Il s'appelle Iron.
Très bien, très beau prénom.
J'en vois beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai réfléchi quelques secondes, ouais. Parce que je vois beaucoup de chiens. Mais non, c'est Iron et il est vraiment très très chouette. C'est le chien d'une comportementaliste, donc voilà, il est vraiment okay, top.
Super.
Et sinon, en termes de projet, je fais aussi des photos. Je mène de plus en plus des projets dans des foyers pour enfants, où je propose un projet photo qui s'appelle Estime de soi. Je l'ai déjà fait en Normandie, donc j'ai pas eu le droit de diffusion des photographies, donc elles apparaîtront pas sur mon site, mais c'est quand même un projet que j'ai fait. Et en fait, je suis intervenue donc en Normandie dans un foyer. Et on a proposé aux enfants qui voulaient le faire, hein, c'était absolument pas obligatoire, de justement participer déjà de base à une espèce de mini-réunion où j'ai un petit peu essayé de les sensibiliser aux clichés qu'il y a dans la société sur les critères physiques, tout ce qu'on nous impose dans la société pour se sentir beau, le fait d'être hyper musclé, hyper fin, tout ça, et que c'était des bêtises et qu'on pouvait très bien être beau sans ça. Donc j'ai fait un peu une démarche de sensibilisation parce que c'est des enfants qui ont des vies très difficiles et qui du coup ont une estime d'eux qui est souvent très basse. Et donc j'étais en partenariat avec une psychologue qui travaille au foyer. Et en fait, on a fait des photos en associant des choses qu'ils aimaient. Donc, on en a une jeune fille, par exemple, qu'on a réussi à emmener dans un centre équestre pour qu'elle puisse faire des photos avec un cheval. Enfin, ça a été assez dingue, en fait. On a réussi à déplacer des montagnes et c'était super chouette. Il y en a qui aimaient la gymnastique. Je les ai prises en photo en train de faire des figures de gymnastique avec des fleurs, avec des choses assez chouettes. Et je vais sûrement reconduire ce projet-là. Là, c'est en cours de préparation sur Amiens aussi. Donc je peux pas citer le nom du foyer, mais voilà, je vais sûrement le refaire cette année. Et c'est super comme projet. Franchement, les enfants au début sont pas du tout chauds pour le projet parce qu'ils se disent ouais, c'est nul, la photo, c'est chiant, etc. Et puis en fin de compte, quand on a fait les photos, ils sont hyper contents. Ils peuvent en donner à des membres qu'ils ont dans leur entourage. Ça peut être des tantes, des oncles qu'ils voient encore et à qui ils peuvent donner les photos ou à des familles d'accueil même. Et ça crée du lien aussi avec les familles, donc c'est vraiment très très chouette.
Je pense que ça peut nous permettre de dire que, bah oui, en effet, souvent, graphiste, c'est plusieurs casquettes, hein, parce que tu as les moments, les temps comme le nôtre où tu vas répondre à une commande, tu as ton travail perso, tu as tes engagements à côté, tu as ta casquette graphiste, illustratrice, et puis photographe. Où est-ce qu'on peut justement retrouver toutes ces infos? Est-ce qu'il y a quelque chose qui centralise un petit peu tout ton travail?
Oui, tout à fait. Alors, au-delà d'être sur les réseaux sociaux, je suis également j'ai codé moi-même mon site web, que j'essaie toujours de tout faire moi-même. Et donc, mon site, c'est luperca.fr. Et dessus, donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des projets en graphisme, en photographie, en illustration. Voilà, un petit peu tout ce que je fais, tout l'éventail.
Eh bien, merci beaucoup d'être passé chez nous, te présenter, puis à la prochaine.
Merci beaucoup.
Avant de continuer l'émission avec une série de brèves proposées par Aline, je vous propose une pause musicale avec le titre un petit peu subversif, je dois vous l'accorder, La voisine de l'artiste ARTR.
C'est pas le coq qui me réveille, c'est ma voisine handicapée. En criant Arthur, si t'es là, est-ce que tu peux me faire mes lacets? Cousine, il est 8h du mat, on est samedi, t'abuses du bail. Moi, je suis bien gentil, là, je me lève, la prochaine fois, tu mets des scratchs. Elle a le côté gauche paralysé, elle habite au dernier. Y'a pas d'ascenseur pour arriver en bas, elle met deux jours. Si tu la croises dans les escaliers, c'est que c'est pas ton jour. Mais c'est la seule qui s'en tape si t'as pas de contour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas. Demande à ta go, demande à ton gars. Prends-les pour exemple si tu veux aggraver ton cas. Le comble pour une hoe, c'est qu'on lui enlève pas son bas. Pour en revenir à la voisine, elle faisait de la peine au début. Elle peut pas sortir ses poubelles, elle s'étonne que dans le bas de sa pue. Vous allez me dire, tu pourrais le faire, mais je suis déjà monté une fois pour lui régler sa télé et y aura pas de deuxième fois. Ça sent tellement le cadavre que si elle meurt, je vais pas capter. Ses yeux sont vides, j'essaye de pas la regarder. Je la vois comme quelqu'un qu'on met sur ton chemin pour te tester. Genre, t'es dans le camp des humains ou dans le camp des scarabées. Manquerait plus qu'elle m'invite pour faire un scrap, ce serait le pompon. Ou un qui est-ce, comme ça je lui redemande son prénom. Elle me l'a dit au moins 3-4 fois, c'est gênant d'oublier après. Enfin personnellement, moi je le prendrais comme un manque de respect. Du coup je me remets à dire madame, comme si on se connaissait plus. Comme si elle avait Alzheimer, comme si j'avais tout confondu. Je peux même pas en faire une sugar mommy, elle a pas d'argent. Quand je suis monté, j'ai vu que son salon, j'imagine pas la chambre. Autant dire qu'au quotidien, j'ai de quoi relativiser. La pauvre elle entend rien, elle pourra pas sentir visée. Toi par contre, j'espère que quand t'écoutes le son, t'ouvres tes oreilles. Et qu'après le concert, t'achèteras un pull pour le bien de mon oseille. Bah ouais, c'est ça la vie, mon grand. Des compiles de rêves tragiques, un tour de magie raté, une voisine se tétraplégique. Mettre des feintes à la suite logique pour vesquer la gueule du loup. Si je te donne un peu de moi, c'est parce que j'investis sur nous. Y'a toujours de l'intérêt, le sang, tu pourras pas dire non. L'amour c'est plus fort que tout, promis, juré, parole d'amant. Son mari il vient une fois par semaine, jusqu'à ce que la mort nous sépare s'il y a pas de problème entre temps.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Info Club Sandwich. On continue l'émission avec une série de brèves proposé par Aline. Bonjour par ailleurs, hein. J'ai complètement
oublié
de te dire bonjour.
C'était pas grave.
Bienvenue à bord.
Merci.
Dans un premier temps, tu souhaites me présenter un concert qui aura lieu prochainement au Grand Théâtre de la Macu, c'est bien ça?
Exactement, c'est ce jeudi 23 janvier à 20h30 et c'est un concert de classique avec un pianiste, Lucas Debargue. Ce musicien est originaire des Hauts-de-France et a fait ses armes au conservatoire de Compiègne et de Beauvais. Et après, il a rejoint le Conservatoire National Supérieur de Musique de Danse et de Paris. En 2015, il est reconnu sur la scène internationale en remportant le prix spécial de la critique musicale du prestigieux concours Tchaïkovski de Moscou. Et pour son dernier enregistrement, il propose une intégrale des pièces pour piano seul de Gabriel Fauré. Et pour son concert à Amiens, il interprétera quelques pages de Fauré ainsi que des morceaux de Chopin et de Beethoven qui ont inspiré le compositeur français disparu il y a 100 ans. Pour les infos pratico-pratiques, je le rappelle, c'est ce jeudi 23 janvier à 20h30 à la Maison de la Culture. Pour les tarifs, c'est entre 8 et 30 euros. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Maison de la Culture d'Amiens, évidemment.
Continue avec une deuxième brève musique.
Exactement, je vous propose la découverte d'un instrument, la viole de gambe. Ça se passe dans le cadre des nuits de la lecture à la bibliothèque Louis Aragon à Amiens. C'est ce vendredi 24 janvier et ça commence à 18h30. C'est gratuit sur inscription sur le site des bibliothèques d'Amiens en métropole. Mais alors c'est quoi la viole de gambe? C'est un instrument à cordes et c'est ancien puisqu'elle trouve son origine à la fin du Moyen-Âge. Elle est très populaire au XVIIe siècle, en particulier à la cour de Louis XIV. 2014. Aujourd'hui, c'est un instrument qui se réinvente avec un nouveau répertoire. Et pour la présentation, c'est avec Andrés Rubiano, un professeur de viol de gambe au Conservatoire d'Amiens, qui vous la fera découvrir.
Pour terminer, tu as une suggestion cinéma.
Exactement, et c'est ce soir, mercredi 22 janvier à 20h30, au Chaudron Scène des étudiants à la résidence Castillon. En partenariat avec le service santé étudiant de l'UPJV et l'association Le Mail, le Crous Amiens Picardie projette le film Drunk de Thomas Vinterberg. Ce film raconte l'histoire de quatre amis qui décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure. Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors contrôle. Voilà pour le petit pitch, ça me semble super intéressant et c'est tout pour moi pour les infos du jour.
Ouais, boire tous les jours, ce n'est pas une bonne idée.
C'est clair.
Ah là, ça alors. Merci beaucoup pour toutes ces actus, Aline. C'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec le morceau The Air That I Breathe de The Hollies. Tout de suite après l'émission, découvrez le sixième épisode de Prépanorama consacré aux élèves de la CPGE Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur du lycée Louis Tullier, une émission d'information étudiante réalisée par Jasmine Feta.
All I need is you. à tous et à toutes, bienvenue dans le sixième épisode de Prépanorama. C'est une émission qui a pour objectif de vous présenter les différentes classes préparatoires à Amiens et ses alentours, avec la participation des étudiants et des professeurs de différentes formations. Pour la deuxième partie de cet épisode, nous sommes avec Inès, Antoine et Clara, du lycée Louis Tullier à Amiens, pour nous présenter leurs ressentis au sein de la filière mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Je voudrais dans un premier temps parler de tes impressions sur la CPGE. Comment est-ce que tu décrirais ton expérience en tant qu'étudiant en CPGE ?
Quand j'étais au lycée, j'étais vraiment hésitant. J'avais peur de ne pas avoir le niveau. Et j'avais vraiment peur d'être largué. Et quand je suis arrivé en prépa, finalement ça se fait assez... c'était mieux que prévu, quoi.
Justement, tu avais certaines appréhensions avant de rentrer en première année. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, de dire « ok, ça va aller » ?
De base, en terminale, ouais, j'étais vraiment perdu. Je savais vraiment pas quoi faire. J'avais postulé pour des bacs pro ou même des BTS. Puis j'avais quand même mis des prépas. Et moi, je sais pas. En fait, je voulais montrer à mes parents que j'étais capable de travailler, en fait. Du coup, j'ai pris prépa et ouais, ça s'est bien passé.
Quels aspects de la classe préparatoire tu apprécies le plus ? Tu parles d'ambiance, peut-être des matières ?
Moi, je pense que c'est l'internat. Mais après, du coup, ça concerne pas tout le monde. Mais... si l'internat c'est cool, ça permet à la fois de bosser tout seul dans sa chambre ou bien alors de bosser en groupe ou même de un peu se détendre avec ses potes de temps en temps.
Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer brièvement le choix de cette classe préparatoire ? Tu as dit que sur Parcoursup tu avais mis des BTS, etc. Pourquoi par exemple tu as dit je vais faire une formation en 2 ans et pas en licence ?
Je m'étais dit, à la fin j'en étais venu à la conclusion que c'est ce qui m'ouvrirait le plus de portes. Et que si jamais j'y arrivais pas, justement, je pourrais descendre en licence, alors que l'inverse n'aurait pas été possible.
Qu'est-ce qui va, par exemple, différencier pour toi la première année de la deuxième année ?
Je pense que c'est au niveau du TIPE, surtout. Parce qu'en première année, on le fait qu'à partir de la deuxième moitié de l'année, enfin, qu'à partir du second semestre. Alors que là, en deuxième année, on va l'avoir tout le temps.
Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs étudiants qui souhaiteraient venir en classe préparatoire ?
Moi, je pense qu'il faut qu'ils bossent bien l'anglais avant d'arriver, parce que c'est vraiment compliqué de bosser l'anglais en classe préparatoire, on n'a pas vraiment le temps.
Eh bien, merci Antoine d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Donc, je suis avec Clara, étudiante, en deuxième année. Bonjour Clara.
Bonjour.
Je voudrais dans un premier temps parler de tes impressions sur la CPGE. Comment est-ce que tu décrirais ton expérience en tant qu'étudiante ?
Honnêtement, c'est... Lors des 2 années de prépa, on grandit énormément mentalement, enfin personnellement du moins. J'avais énormément de mal à résister au stress, etc. La première année était très compliquée mentalement. Enfin, tout ce qui est école, DS, on est tout le temps interrogé. Tu peux jamais relâcher la pression, pardon. Donc, tout le temps travailler. Et personnellement, je travaillais déjà beaucoup au lycée. Donc, le fait encore de tout le temps, ça peut être long. Après, je sais qu'en CPGE, il y a beaucoup d'élèves qui ont des facilités. Donc, c'est soit plus compliqué pour certains élèves, soit plus simple du coup de bosser beaucoup. Mais ça peut paraître très long, 2 ans. Mais au final, c'est quand même une bonne expérience, même si c'est très stressant et qu'il y a des jours où ça ne va pas du tout. Mais au final, on en sort grandi, quoi.
Est-ce qu'avant de rentrer en classe préparatoire, tu avais certaines appréhensions, des a priori peut-être ?
Je savais que ça allait être très dur. On m'avait très bien dit, mes parents tous les deux ont fait prépa. Donc je savais que ça allait être compliqué. À ce moment-là, non. Enfin, personnellement, on ne peut pas s'imaginer à quel point, pour moi en tout cas, de mon point de vue, on ne peut pas s'imaginer à quel point ça peut être dur avant d'y être entré, même s'il y a d'autres gens qui vont te dire « ouais, c'est très compliqué », etc. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte à ce point-là, du moins.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être brièvement les choix de cette classe préparatoire ? Pourquoi une classe préparatoire et peut-être pas autre chose ?
Honnêtement, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je savais que je voulais garder un maximum de portes ouvertes, et comme j'avais fait option maths experte, spé physique et maths, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée de continuer dans ce trajet scientifique, en tout cas. Donc je me suis dit que la prépa, ça, c'était le meilleur moyen pour m'ouvrir un maximum de portes et ensuite pouvoir décider. Je m'étais dit qu'au cours des 2 ans, je saurais ce que je veux faire. Moi, je n'ai pas eu le temps de regarder. Du coup, je me suis dit, on va continuer dans le trajet lambda, entre guillemets. On va faire école d'ingé et ensuite se spécialiser en école d'ingé généraliste, du coup.
Et est-ce qu'il y a un aspect de la classe préparatoire que tu apprécies le plus ?
Déjà le fait d'évoluer vraiment mentalement, la résistance au stress, vraiment pour moi c'était la résistance au stress personnellement, et puis le fait d'apprendre à faire plein de choses en même temps, le fait de s'organiser encore plus qu'avant, bien répartir son temps, savoir faire des pauses, savoir s'aérer l'esprit, Tout ça, c'est vraiment un truc qu'on apprend en prépa, en tout cas, je trouve.
Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la charge de travail ? Tu parles beaucoup de charge de travail. Quels sont les points, par exemple, qu'il faut avoir avant de rentrer en classe prépa ? Est-ce qu'il faut être très organisé déjà directement ou ça s'apprend ?
Bah, moi, j'étais déjà très organisée de base, mais je sais qu'en prépa, j'ai été encore plus organisée. C'est-à-dire que, bah, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais moi, je me faisais des emplois du temps. Par exemple, un samedi en première année, par exemple, je faisais de 8h à 10h, je faisais telle matière. De 10h à midi, je faisais telle matière. Après, je m'octroyais une pause et je recommençais l'après-midi. Enfin, c'est vraiment l'organisation, je trouve que...
Eh bien, merci Clara.
Merci à vous.
Je suis avec Inès, élève, étudiante pardon, en deuxième année. Bonjour Inès.
Bonjour.
Je voudrais dans un premier temps parler de tes impressions sur la CPGE. Comment est-ce que tu décrirais ton expérience en tant qu'étudiante ?
Alors, la CPGE, c'est déjà un environnement de travail. C'est-à-dire qu'on est dans une classe entourée par des personnes qui ont tout autant envie que nous de travailler et d'atteindre des écoles. Ce qui fait que quand on est en prépa, en fait, on est tous soudés ensemble. Et donc, en fait, c'est très agréable puisqu'on est porté par le groupe de classe qui va nous pousser, en fait, à travailler. Et en plus de ça, le travail, c'est aussi un dépassement de soi, dans le sens où on va avoir à travailler bien plus que ce qu'on faisait au lycée, et on va apprendre à évoluer, à travailler, à s'organiser, voilà.
Et justement, est-ce qu'il y a un aspect que tu apprécies le plus, en plus de la solidarité qu'on peut retrouver en classe préparatoire ?
Alors, en classe préparatoire, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on ait une grande diversité de sujets qui nous sont proposés, notamment à travers les DM. On a des DM très régulièrement, ce qui nous permet en fait de voir beaucoup de choses, en plus de ce qu'on voit déjà en TD. De plus, le fait qu'on ait des DS toutes les semaines nous permet aussi de voir de nombreux sujets de concours des ans passés. Et en fait, grâce à ça, on arrive à s'établir toute une banque d'exercices qui va nous permettre en fait d'avoir plein de petits éléments qu'on pourra retrouver plus tard dans les concours, ce qui va nous rassurer ensuite lors des concours.
Et justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être brièvement la raison d'une classe préparatoire et non pas, par exemple, d'un BTS ou d'une licence ?
Oui. Alors en fait, moi j'ai toujours adoré les maths et depuis toute petite, je veux toujours étudier les maths le plus possible. Et en fait, la classe préparateur, c'était pour moi l'opportunité d'avoir des études de meilleure qualité que ce que je pourrais avoir à la fac. Et aussi un moyen d'apprendre davantage à gérer mon travail, dans le sens où à la fac, on est très très peu guidé. Alors qu'en classe préparatoire, on a davantage de soutien vu qu'on est un plus petit effectif. Et du coup, grâce à ça, ça m'a davantage préparée, notamment à mes futures études, dans le sens où j'ai pu apprendre à m'organiser davantage.
Justement, peut-être qu'on pourra évoquer un peu tes objectifs et ton parcours après. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la journée typique en classe préparatoire, pour toi en tout cas ?
Oui. Alors en classe prépa, en général, on a 2 heures de cours le matin. On va en soir maths ou physique en général. Ensuite, une petite récréation. De même, on va repartir sur 2 autres heures de cours. Souvent, maths ou physique, quand on a eu maths, on a physique après, etc. De même, l'après-midi, on va avoir entre 2 et 4 heures de cours à peu près. On va avoir souvent plus les options ou les langues l'après-midi. Donc, philo, anglais, etc. Et on fait des journées, en général, de 8h à 16h, voire 18h. Plus le midi, 2 jours par semaine, on va avoir une colle.
Tu travailles combien de temps après ta journée ?
Alors, du coup, le soir, je vais travailler à peu près 3 heures par soir. Donc, je vais retravailler pendant 1 heure environ tous les cours de la journée. Donc, ça va permettre d'assimiler tous les petits détails qu'on n'a pas eu le temps de saisir, parce que les cours vont vite, donc il faut relire son cours. Et ensuite, je vais passer 2 heures à travailler soit tout ce qui est DM, soit les exercices, soit l'école, si j'école le lendemain, afin d'approfondir davantage ce que j'ai pu apprendre en révisant mon cours avant.
Et est-ce que tu sais si c'est possible, par exemple, de faire des activités sportives à côté ? Est-ce que le lycée, par exemple, a un club de sport ou quelque chose comme ça ?
Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que dans l'emploi du temps CPGE, on a 2 heures de sport par semaine. Donc sur ces créneaux-là, on a plein de sports qui nous sont proposés. On a de la musculation, du badminton, parfois de l'escalade, du volley, du foot, du basket. On a plein de choses. Et en dehors de ça, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui en profitent pour aller à la salle de sport juste à côté dans Amiens. Donc oui, c'est totalement possible de faire du sport.
Pour terminer, des conseils à donner aux futurs étudiants qui souhaiteraient venir en classe préparatoire?
Bien sûr. Alors déjà, oser. Il ne faut pas avoir peur de venir en classe préparatoire. Et ensuite, il faut travailler dès le début. Alors au début, on n'a pas forcément envie et puis on a nos habitudes du lycée. Mais en fait, dès le début, il faut commencer à relire son cours, etc., pour bien l'assimiler et travailler tous les exercices pour justement se constituer cette banque d'exercices en tête qu'on pourra réutiliser plus tard.
Eh bien, merci Inès.
Nous étions avec Inès, Antoine et Clara afin de présenter la filière MPSI au lycée Louis-Tully à Amiens. C'était le 6e épisode de Prépanorama, une production réalisée en partenariat avec la mission d'enseignement supérieur, recherche et innovation d'Amiens Métropole. À bientôt.